Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn. And people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et bienvenue dans votre émission Le Manche sur une nouvelle semaine qui commence et qui s'annonce merveilleusement bien parce qu'il y a du soleil au moment où nous enregistrons cette émission. Aujourd'hui, comme à chaque fois, on essaye de penser le corps et de réfléchir autour des pratiques qui sont proposées à notre entourage pour comprendre de plus en plus les mille possibilités qui existent. Faire du corps un outil de recherche, un outil indispensable pour notre mémoire qui contient énormément de secrets à nous révéler. Aujourd'hui, nous recevons un Nicole Lamoureux. Bonjour Nicole.
Bonjour Os.
Je demanderai de te présenter qui tu es, comment tu te conçois en tant que performeuse, praticienne, etc. Le titre que tu adosses que tu présentes aussi ta pratique, d'où tu viens, qu'est-ce que toi tu fais en relation au corps.
Ok, bah écoute, donc moi je suis danse thérapeute ou plus précisément art thérapeute et j'utilise comme médiation la danse, l'écriture et les arts plastiques. J'ai cette pratique d'art-thérapie depuis pas mal d'années j'en ai fait un métier puisque maintenant j'interviens sur Montpellier dans différents lieux pour proposer de la danse libre, de la danse intuitive. Après avoir eu une pratique moi-même dans différents courants, je ne sais pas comment les qualifier... Enfin, j'ai fait de la danse classique, danse contemporaine, danse africaine contemporaine, et puis aussi beaucoup de danse traditionnelle. Mmh. Et puis, j'ai découvert progressivement d'autres univers de danse qui se réclament de la thérapie, mais qui aiment bien l'idée qu'ils puissent faire soin. Je pense à la biodanza, à la danse des cinq rythmes, à la danse extatique, tout un univers de danse très libre, où on ne cherche pas le geste au millimètre près, hein, par ce que j'entendais dans ta bande-son au départ.
Dans le générique, oui.
Donc je propose ça au studio de danse La Nef, oui. Qui se trouve dans le quartier Gare, qui propose bien d'autres activités d'ailleurs. Je propose ça de manière bénévole pour une association qui s'appelle France Dépression Héros. D'accord. Et puis en clinique psychiatrique à la Lironde. Et puis je propose encore ça à La Nef, j'ai deux groupes. Un atelier inclusif que j'ai ouvert en septembre, qui rassemble des gens, je le dis avec un clin d'œil, puisque ça ne s'entend pas au micro, des gens qui peuvent présenter des handicaps visibles, par exemple des trisomies, ou bien des handicaps invisibles. Et c'est nous, avec nos handicaps invisibles, plus ou moins invalidants, plus ou moins forts selon les moments. Et donc, l'autre, c'est aussi un atelier de danse libre, danse et modelage. Alors que celui du mardi que je propose aussi à La Nef, c'est un atelier du tout venant, donc avec des personnes qui ont des handicaps invisibles.
Invisible. On avait discuté en dehors de microphone sur une référence qui t'est chère, non? Est-ce que tu peux nous dire... parce que cette référence, elle va nous donner, chers auditeurs et auditrices, une idée de l'appui théorique qui nous intéresse tant dans cette émission.
Alors moi, j'ai découvert, chemin faisant, Germaine Acogny. Je pense que c'est de celle-là, cette chorégraphe dont tu parles.
Non, c'est pas du tout ça, mais...
Pas voici. Elle. Alors, Germaine Acogny, bah déjà au moins celle-là, qui est...
que je ne connais pas du tout.
Chorégraphe sénégalaise qui a créé l'école des sables à Saint-Louis du Sénégal.
Oui. Là, ça vient.
Et qui a... donc créé cette école, qui nous envoie d'ailleurs encore des danseurs. Hein. Je pense que, par exemple, Siaka Koulibaly, sur Montpellier, en vient. Je pense à lui. Et donc, elle a créé avec Pina Bausch, qui est quand même une référence un peu connue dans le monde classique ou contemporain de la danse. Elle a mis en mouvement le Sacre du Printemps. Il faut aller le voir, Pina Bausch et Germaine Acconi, et voir comment elle ramène du sauvage, du primitif, de l'archaïque, dont on a besoin, surtout quand on dialogue avec la danse classique. On voit arriver le mouvement, l'intensité, la pulsion, le rythme, l'espèce de fièvre comme ça qui se propage même dans le public, quoi. On peut regarder un ballet de danse classique avec un lorgnon, avec des jumelles, alors qu'un ballet où Germaine Acconi a mis sa patte, non, on a envie de danser, quoi, on a envie de se lever.
Oui, on est plus dans... comment ça s'appelle cette force qui t'oblige à bouger?
Pulsion.
Une pulsion, non mais en physique, bon bref, j'ai oublié. On ne va pas rester là-dedans. Dans la précédente émission, on avait parlé justement de Pina Bausch, mais pas de Sacré du Printemps, mais on avait parlé du Café Mula, dans cette scène emblématique où il y a une dame qui s'élance dans les bras d'un homme et qui la laisse tomber à chaque fois. Donc c'est une sorte de... Le sol devient une sorte de gouffre, parce qu'on explorait les quatre fondamentaux de la danse contemporaine, donc les auditeurs sont un peu au courant de Pina Bausch. Mais la référence que j'ai voulu que tu nous en parles, c'était que le comte Esponville, cette philosophe, je te laisse plutôt le présenter si tu veux, un philosophe qu'on pourrait dire matérialiste, athéiste.
André comte Esponville, c'est un homme sage. Donc, je ne crois pas qu'il soit... du coup, ce n'est pas un homme radical. C'est pas... Et j'ai pensé, en préparant l'émission, tu m'as demandé, posé la première question, comment trouver le bonheur par la danse.
Voilà.
Et du coup, moi, du haut de mon âge... qui est plutôt assez important, eh bien, pour moi, le bonheur, c'est vraiment une notion, un état éphémère, qui va bien d'ailleurs avec la danse.
Avec la danse, oui.
Et c'est pas un état... quand on me demande comment trouver le bonheur par la danse, je suis inquiète parce que je sais pas comment la danse peut apporter le bonheur. Par contre, du bonheur, oui, et effectivement, en appui sur comte Esponville, on a pu voir ensemble, Os, toi et moi, que le bonheur, c'était un état fuyant, état éphémère, mais qu'on peut le retrouver à travers différentes figures du bonheur, par exemple celle de la quiétude.
Oui.
Et là, la danse peut nous amener dans cet état de quiétude que je rapproche de la fluidité, donc de l'état liquide. De l'état liquide qui nous constitue aux trois quarts. Voilà, liquide. Aussi du liquide dans lequel on a baigné dans le ventre de notre mère. Et puis l'état liquide des origines de l'être humain, puisqu'avant sur deux pattes, on était poisson. Et c'est ça. Et donc. On va retrouver à travers la danse cet état de fluidité du mouvement et d'un mouvement qu'on peut faire circuler dans le corps depuis la pointe des pieds jusqu'au haut de la tête en mettant donc une fluidité dans notre mouvement comme une manière de se réconcilier avec cet état aquatique. Voilà. Alors après... j'ai continué, merci André comte Esponville, à réfléchir à cette idée de bonheur, et en l'associant à celui de l'état de créativité, qui est un état, en tout cas moi dans mes références d'art thérapeute, c'est un état qui est présent en nous, même dans nos plus grandes difficultés, même dans nos plus grandes épreuves, on a toujours cet état de créativité. Et alors là, la danse, évidemment, va pouvoir le réveiller, mm-hmm. le nourrir, l'impulser, parce que ça va nous mettre au contact, dans, en tout cas dans les styles de danse que je peux pratiquer et j'allais pas dire enseigner, mais proposer plutôt, inviter à.
D'accord.
On va faire des liens avec ce qui se passe en nous, du côté de la sensation, du côté de l'émotion, du côté de l'intention. Et du coup, ça nous donne une palette d'images, une palette de ressentis avec lesquels on va nourrir notre mouvement. On peut s'imaginer, par exemple, au début d'une séance, d'un atelier. On peut s'imaginer comme un rocher fissuré par le temps, par le gel, dans lequel s'est glissée une graine qui commence à s'élever, à rejoindre les autres graines, à faire un tapis sur lequel vont se déposer des cocons, d'où vont surgir des papillons, au milieu desquels vont commencer à évoluer des animaux. C'est tout un tableau qui peut être très nourrissant pour créer notre chorégraphie, à notre rythme. Je pense qu'il y a certains auteurs, chorégraphes contemporains d'ailleurs, qui s'inspirent de tout ça pour mettre des groupes ou des solos en mouvement sur des scènes.
Donc pour toi, cette chorégraphie... Je te posais une question qu'on n'était pas prêt à parer, mais elle est différente de l'écriture. Parce que je sais que toi, cher auditeur, Nicole dirige aussi des ateliers d'écriture où on fait carrément un travail avec les mots. Pour toi, quand tu parles des chorégraphies, dans ce que tu viens d'expliquer, ce que tu proposes dans les ateliers, cette chorégraphie, elle a une autre nature.
Elle s'appuie complètement sur le corps, mais le corps, c'est, nous sommes des corps parlants quand même. Donc un corps parlant, ça veut dire que dans la tête, il ne se passe pas rien, mais il se succède ou s'articule un dialogue entre ce qui vient du corps comme sensation, comme ressenti, et ce que le cerveau reçoit, et comment il le rediffuse dans le corps. Il y a une espèce de dialogue dont il est bien difficile de savoir ce qui appartient au corps et ce qui appartient, comme on dit, au mental. Le mental est souvent chassé de nos jours. Il faut faire taire le mental pour que le corps puisse s'exprimer. Moi, je pense que c'est plutôt, il faut nourrir autrement le mental, parce que le mental, il continuera à fonctionner de toute façon. Mais il faut le nourrir autrement. Il faut le nourrir avec nos intentions de danse, avec nos images, avec ce qu'on ressent, avec l'état dans lequel on est arrivé sur le parquet, sur le dance floor, avec peut-être une idée qui nous traverse, qui insiste, qui revient, eh bien, on le met dans notre danse. Et ça fait quelque chose de très singulier, qui nous permet de nous exprimer, de faire sortir des choses qui n'étaient pas encore là jusqu'à présent. C'est pour ça que je parle de cet état de créativité et de cette créativité nourrie en flux continu par la musique, par le rythme et par les danses des autres. Parce qu'on ne danse pas
tout seul, oui.
Voilà, enfin, en tout cas, moi, dans mes ateliers, on ne danse pas tout seul. Et moi, j'invite les gens à oser faire ce qu'ils ont envie, là, ce qui vient spontanément, et l'affirmer, le clarifier, parce que c'est inspirant pour les autres. Quelqu'un du coin de l'œil, même si les gens ne se regardent pas, et il n'y a pas de miroir, s'il y avait des miroirs, il y aurait un rideau devant, parce que les gens se regardent peut-être du coin de l'œil et saisissent quelque chose qui leur parle sans que forcément ils mettent les mots tout de suite dessus. Mais c'est un mouvement qui va les inspirer pour leur propre danse.
On répond tout de suite avec Nicole, avec une idée que je veux qu'elle développe. On reçoit Yuma, c'est ça ?
Yuma,
un groupe tunisien. Oui. Je ne connaissais pas du tout, donc c'est de l'arabe de Tunisie. Donc on va entendre Wine.
Da da da.
Avec ces notes douces qui nous fait découvrir aujourd'hui Nicole, merci Nicole, qui nous transporte dans des géographies merveilleuses, sablées, où la température est une autre. Et la chaleur des gens, c'est aussi un atout qui change complètement notre façon de faire des séries liées aux autres. Et donc on revient à un point intéressant que tu étais en train de développer et qu'on t'a coupé un peu à cause de la pause. Donc c'était par rapport à comment tu expérimentais le corps et on était parti du bonheur qui a été un état éphémère. Et donc tu m'avais dit quelque chose que je veux que tu dises, je ne vais pas le dire moi.
Je le laissais venir, j'attendais. Oui, à l'inverse de l'éphémère, y a l'infini, c'est-à-dire le fait de pouvoir ouvrir des portes qui ouvrent d'autres portes. Alors on pourrait peut-être s'y perdre, donc il faut avoir des fils conducteurs, un petit peu comme Ariane dans le labyrinthe. Parce que quand on s'intéresse à la danse, on s'intéresse aussi au rythme, on s'intéresse aussi à la musique. Et on voit bien, là, c'est flagrant, dès lors qu'on va sur une chaîne de musique de diffusion, on voit bien qu'à partir d'un morceau, on s'ouvre sur 25 morceaux qui nous sont proposés.
Oui.
Quand on va dans un festival de danse, trance, là c'est pareil, on va aller rechercher des morceaux et on a affaire à une infinité de morceaux de musique et de styles de danse. Mmh. Et ça, c'est une manière quand même de s'appuyer, au contraire de l'état éphémère, parce qu'on sent sa fragilité, on sent que c'est un état... auquel peut succéder un état plus difficile et qu'on a besoin quand même d'avoir des appuis, des ancrages dont on sent que c'est du solide, que ça vient de loin et que ça durera bien après nous. Je crois qu'on a besoin, d'accord, nous les êtres humains, oui, de s'inscrire dans la chaîne du temps et d'accepter d'être des poussières d'étoiles à condition que soit dans notre vie, on sente des appuis concret, réel. Et ça, la danse, c'est un appui concret. D'abord parce qu'on est posé sur nos pieds et que c'est une manière de vérifier que le sol est présent et qu'on a la chance d'être quand même dans une région où le sol ne fait pas défaut comme dans d'autres, hein, où il pourrait se fissurer, etc. Là, il est quand même plutôt solide. Et de le sentir, ce partenaire de vie qu'on a dès qu'on marche, dès qu'on se met à marcher, et encore plus quand on se met à danser, où on a besoin du sol, de cet ancrage, comme d'ailleurs on ressent notre respiration comme un ancrage, comme quelque chose qu'on n'a même pas besoin de désirer, hein, qui est là, ah, et qui fonctionne. La respiration, ça fonctionne. Alors, on peut essayer de vivre en apnée, mais pas très longtemps,
non,
ou de respirer régulièrement en apnée, mais ça ne dure jamais très longtemps, parce que l'organisme, on a créé du vide, et oh, oui, une aspiration qui est appelée, hein, pour réouvrir les poumons, enfin, tout le système de circulation de nos liquides, du sang à l'intérieur du corps. Donc la danse, pour moi, ça touche à cet infini qui fait que quand on rentre dans cet univers, c'est vraiment difficile de s'ennuyer. Voilà.
Et ce qui est intéressant aussi des pratiques physiques qu'on explore dans cette émission, c'est un double travail qui est toujours très présent dans les corps. C'est, on peut contacter cette sensation d'éphéméralité, de quelque chose qui se déploie et qui disparaît en même temps qu'elle est produite, non ? Que le mouvement disparaît aussitôt, il a été élaboré. Mais aussi, quand on revient à la physicalité, c'est ce que tu disais, on est sur nos deux pieds, on a la conscience du poids, on a toujours cet concret qui va nous aider à revenir, non ? Au cas où si on sort trop de... dans les mentales ou dans l'exploration du corps. Donc c'est ça qui revient souvent dans nos conversations avec surtout des thérapeutes comme toi, parce que j'ai eu aussi une autre thérapeute, une somatothérapeute, qui nous avait aussi parlé de sa façon de travailler la danse pour soigner, dans son cas elle. Et donc c'est vrai que cette sensation d'éternité, avant, on l'associait beaucoup à la religion, à Dieu, à la spiritualité, non ? Et que dans les pratiques contemporaines, on la retrouve là, dans la physicalité, c'est-à-dire dans cette conscience extrêmement microscopique de nous-mêmes, non ? De comment est-ce que c'est composé, comment je peux produire un mouvement, comment je peux le travailler, et après aussi pourquoi faire, non ? À quelle application. On passe à une question peut-être moins intéressante pour toi, mais que j'aime bien poser cette question à mes invités, sur la transmission en dehors de l'école, parce que je suis convaincu, je ne suis pas le seul à le dire, que la danse a une transmission très orale, non ? Et c'est quelque chose qui se passe vraiment dans la bouche de ces maîtres qui est en train d'expliquer des subtilités qui peuvent être expliquées seulement des corps à corps. Et je pense que c'est d'une certaine façon une subversion par rapport à ce que c'est l'école, la place officielle de l'école, qui, je n'ai rien contre l'école, mais c'est une autre place. C'est une place extrêmement différente. Et toi, tu pourrais nous dire...
Alors pour moi... je ne me pose pas tellement la question de l'oralité en termes de transmission, mais plutôt en termes de se rassembler, de faire ensemble. Et pour moi, les lieux de transmission de la danse, bah, c'est la rue,
oui.
Les parcs, partout où des personnes peuvent se rejoindre pour danser et donner envie à d'autres de les rejoindre. C'est... l'idée du feu autour du feu dans le village aussi, hein. Pour moi, c'est ça les lieux de transmission de la danse. Où tout petit, on a vu les adultes danser, on s'est glissé dedans et puis On s'est amusé, on y a trouvé du plaisir. On a pu contacter ce qu'il y a de vivant en soi et d'accepter, d'accueillir ce qui est vivant et de voir des adultes, peut-être qu'il reste du temps, travaillent trop, se plaignent trop, traînent les pieds. Et là, soudain, on les voit légers, gracieux, joyeux, s'embrassant, riant. Voilà. Pour moi, c'est ça, les premiers lieux de transmission.
Je me suis aperçu que j'ai sauté la question précédente sur le piège, parce qu'on en avait discuté. À chaque fois, je pose la question sur les pièges, c'est-à-dire ces chemins un peu difficiles ou tordus ou qui amènent nulle part pour les personnes avec lesquelles on partage un matériel corporel. Donc, tu nous avais parlé de la première qu'on retrouve souvent, c'est le jugement, non ? Et d'éviter de se juger.
Ah oui.
Et tu l'avais relié à quelque chose d'intéressant, que c'était l'âge.
Oui.
Non ?
Dans ma pratique d'enseignante, d'animatrice, d'art-thérapeute, en fait, je m'adresse à des publics dans un même groupe, il y a tous les âges. Enfin, pas les enfants, hein, post-ado oui. jusqu'au grand âge. Et c'est des gens qui viennent à la danse parce qu'ils ont besoin de libérer quelque chose et d'autant plus se libérer de la comparaison.
Oui.
Ouf, stop, on arrête la comparaison. On arrête de regarder que les têtes d'affiche. On arrête de laisser trop de place à l'intérieur de soi, ce juge qui en permanence nous accompagne tout au long de notre vie et qui nous dit ce qu'il serait bon de faire, de penser, de dire. Là, dans la danse, eh bien, on le laisse un petit peu de côté. Ou bien, mieux encore, on va le mettre dans sa danse. Comment il nous ferait danser ? Ce juge, s'il empruntait notre corps pendant un moment, comment on le mettrait dans notre mouvement ? Et ça, c'est une manière d'exprimer quelque chose qui sinon passe inaperçu. Hein, c'est replié dans un coin. C'est pas parce que c'est replié dans un coin de la tête que ça n'est pas agissant. Et on le sait bien qu'on grandit avec ce juge. Et donc, si on peut
oui,
toujours pareil, le nourrir autrement.
Le permettre de s'exprimer, parce que souvent quand on a des gros préjugés et qu'on le confronte, on le pose à l'extérieur, on le voit tout autrement. Ça prend une dimension, c'est pareil quand dans la création littéraire, dès qu'on met le mot sur la phrase, on dit mais c'est pas ça ce que j'avais des dents. Et c'est flagrant, c'est quelque chose qu'on s'aperçoit quand on fait l'exercice d'extérioriser ce type de choses qui viennent des fausses idées, des fausses croyances, ou des idées peut-être un peu comme de la boue.
Mm-hmm.
Ils ne sont pas très vraiment clairs, mais ça nous bouffe un peu l'énergie. Et
de l'exprimer dans le corps, de lui donner une forme, un mouvement, eh bien ça va devenir ludique. Ludique et puis stylé, hein. On peut le danser avec style, hein. Traverser l'espace de manière magistrale. Donc ça c'est intéressant. Hein.
C'est les autorisations.
Absolument, s'autoriser à laisser parler son enfance et son adolescence en soi. Et bien sûr, l'âge, ne pas considérer que l'âge, oui.
J'ai géré mal les temps, mes chers auditeurs, aujourd'hui c'était un peu le chaos, c'est ma faute. Parce que vous avez prévu beaucoup de choses et les temps radio c'est compté. On va finir juste avec ton pas de danse préféré parce que tu en avais un. On avait parlé de la feinte. Tu aimes quand ça joue sur une sorte de
Oui, de fente qui permet un peu avec le mouvement du corps vers l'arrière. On va retrouver par exemple chez le tireur à l'arc, on va retrouver ce mouvement, ou bien celui qui lance une pierre, ou bien celui qui lance une fleur, celui qui lance une bombe de peinture tirer son mouvement vers l'arrière, vers l'épaule, hein, en pliant le bras, et qui lance ou qui jette. Et ça, c'est vrai que c'est un mouvement que j'aime bien, lancer, jeter.
Pardon, je t'ai coupé, qui rejoint tout à fait ton esprit de la rue, de ce qu'on peut apercevoir dans les grandes villes avec Banksy ou d'autres artistes locaux.
Sonra aussi. À Montpellier.
Sonra à Montpellier, j'ai Sonra. Voulu que tu dises parce que je n'ai pas retenu le nom. Mes chers auditeurs, auditrices, c'est très très court, je sais, c'est un peu comme ça, bombardé avec plein de choses, mais on essaie de partager avec tous ces praticiens, praticiennes de notre précieuse, merveilleuse ville. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle analyse du mouvement corporel. Et je vous souhaite des beaux mouvements et des belles étreintes.
Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez.
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit! On se tourne vers le miroir, allez!
Thank you.